France Culture, il est midi et demi. À la une de ce journal, une grande avancée dans l'enquête après l'incendie de la cathédrale de Nantes. Le bénévole du diocèse entendu il y a une semaine a reconnu être l'auteur des départs de feu. Les explications d'Ariane Grissel en début de journal. On entendra également la réaction de la députée de Loire-Atlantique, Valérie Opelt. La pandémie de Covid-19 qui s'accélère dans le monde et c'est au tour de la Belgique de renforcer ses mesures sanitaires, vous l'entendrez. Et nous irons en Russie, plus précisément en Extrême-Orient, dans la région du Khabarovsk, où plusieurs manifestations ont lieu contre l'arrestation d'un gouverneur. Enfin, c'est le moment d'aller au Louvre. En l'absence des touristes étrangers, les galeries du musée parisien sont bien plus tranquilles que d'habitude. Il avait été entendu il y a une semaine, quelques heures après l'incendie de la cathédrale de Nantes. Il est désormais mis en examen. Le bénévole du diocèse a fini par reconnaître les faits hier soir. L'homme d'origine rwandaise et âgé de 39 ans a été placé en détention cette nuit, Ariane Grissel.
Cet homme était bénévole pour le diocèse de Nantes depuis environ 4 ans. C'est lui qui était chargé de fermer la cathédrale la veille au soir de l'incendie. Une fois les flammes éteintes, deux éléments attirent l'attention des enquêteurs. Tout d'abord, le fait qu'il n'y a aucune trace d'effraction sur l'édifice. Et surtout, ces trois départs de feu distants les uns des autres. L'homme est placé en garde à vue une première fois, libéré dimanche soir sans poursuite. Depuis, des investigations ont été menées sur son emploi du temps, plus d'une trentaine de personnes interrogées. Et les premiers résultats des analyses scientifiques amènent à privilégier la piste criminelle. Cette nuit, le suspect a donc finalement reconnu les faits. Il les regrette amèrement, à en croire son avocat. Quentin Chabert, joint par Anne Patinec.
Quelqu'un qui a une foi catholique, évidemment, c'est compliqué. Et quelqu'un qui n'avait pas du tout le profil de quelqu'un qui pouvait commettre ce type de fait. C'est une des choses qui seront sans doute développées dans le cadre de l'enquête. Pour l'instant, on est au tout début, donc il faudra laisser le temps de l'enquête au juge d'instruction de faire son travail sereinement.
Enquête qui devra notamment déterminer les raisons de ce geste. L'homme est mis en examen pour destruction et dégradation par incendie. Des faits pour lesquels il risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Ariane Grissel, c'est donc un grand pas en avant pour l'enquête et un soulagement pour beaucoup de Nantais. Écoutez la réaction de la députée de Loire-Atlantique, Valérie Opelt.
Je pense qu'on va parler plutôt de tristesse. Tous les Nantais attendaient l'issue de cette enquête. D'ailleurs, un travail formidable réalisé par la police scientifique. Et malheureusement, nous apprenons ce matin qu'il ne s'agit pas d'un accident, qu'il s'agit bien de faits criminels. Par ailleurs, nous ne sommes pas sur un territoire où finalement les incendies sur ce type de bâtiment, sur les églises, sont des incendies criminels. Nous avons bien sûr connu des incendies accidentels, mais jamais criminels. Donc, nous venons passer une étape importante à Nantes. Donc, beaucoup de tristesse.
La députée Valérie Opelt au micro de France Info. Des hommages aujourd'hui au père Jacques Hamel, assassiné il y a tout juste 4 ans dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray en Seine-Maritime. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, assiste aux célébrations. Une marche blanche a lieu ce matin, suivie dans la journée d'une messe et d'une cérémonie républicaine. Jacques Hamel avait été assassiné par deux djihadistes, assassinat revendiqué à l'époque par le groupe État islamique. La barre des 16 millions de cas de coronavirus a été franchie dans le monde, dont plus de la moitié aux États-Unis, en Amérique latine et aux Caraïbes. Le rythme de la pandémie continue de s'accélérer un peu partout, avec plus de 5 millions de nouveaux cas détectés uniquement depuis le 1er juillet. C'est plus d'un tiers des cas de Covid-19 déclarés depuis le début de la pandémie. À noter que ces chiffres ne reflètent qu'une part du nombre réel de cas. Beaucoup de pays n'utilisent les tests que pour le traçage ou ne disposent pas des moyens suffisants pour de grandes campagnes de dépistage. Et c'est une première, la Corée du Nord fait état d'un cas suspecté de coronavirus. Une ville du Sud est désormais confinée. Le pays s'est déclaré en état d'urgence maximale. Si ce cas est confirmé, ce serait le premier cas officiellement recensé en Corée du Nord, où le système de santé est loin d'être adapté pour traiter une telle épidémie. La pandémie qui s'accélère donc en Europe également. La Belgique constate une aggravation sur son territoire. Une enfant de 3 ans est décédée de la Covid-19 vendredi. Les infections et les décès repartent à la hausse. Mais la première ministre, Sophie Wilmès, appelait jeudi à éviter l'affolement. Sur Twitter, elle envisageait hier des mesures supplémentaires en plus de celles déjà renforcées depuis hier matin, Pierre Benazé.
C'est le Conseil national de sécurité qui pourrait prendre des mesures supplémentaires dès lundi pour la Belgique. La première ministre annonce l'avoir convoqué 4 jours plus tôt que prévu du fait de l'aggravation de la situation à Anvers. Au début de la pandémie, la Flandre belge était déjà plus touchée que la Wallonie et que Bruxelles. Ce schéma semble se reproduire aujourd'hui. L'inquiétude est d'autant plus palpable que le taux de contamination s'approche de 2 dans la région anversoise. Pour l'ensemble de la Belgique, le taux de transmission moyen vient à peine de repasser à plus de 1 personne contaminée pour chaque personne. personnes infectées. Dans les nouvelles mesures en place aujourd'hui, il est déjà fait une large place aux autorités locales, en particulier aux bourgmestres. Pour leur commune, ils ont eu la tâche de déterminer les zones où le port du masque est devenu obligatoire en extérieur et ils ont le droit de prendre des mesures supplémentaires. Et pour l'association flamande des généralistes, il faudrait à Anvers un reconfinement local spontané.
Et parmi les nouvelles mesures possibles demain, une réduction de 15 à 10 de la bulle sociale, c'est-à-dire le nombre de personnes que les Belges sont autorisés à fréquenter dans leur intimité chaque semaine. Année blanche pour les intermittents du spectacle, c'est désormais acté. L'arrêté du ministère du Travail a été publié ce matin au journal officiel. Les intermittents très durement touchés par les conséquences de la crise sanitaire voient leur droit d'indemnisation prolongé de fin mars 2020 jusqu'à fin août 2021. Une voiture a foncé sur un groupe de personnes ce matin à Berlin. Il y a 7 blessés, dont certains cas graves. Ça s'est passé vers 7h20, près de la gare du zoo de la capitale allemande. Aucune information sur une éventuelle motivation politique ou religieuse à l'heure actuelle, selon la police. Le conducteur blessé également a été arrêté. En Russie, la région de Khabarovsk en Extrême-Orient est secouée par des manifestations contre le gouvernement. Plus de 10 000 personnes ont marché hier contre l'arrestation de son gouverneur populaire accusé de meurtre. La nomination d'un nouveau gouverneur n'a pas calmé les esprits. Le mouvement semble même prendre de l'ampleur. D'autres manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, Jean-Didier Revoy.
La colère ne retombe pas dans l'extrême-orient russe. Depuis le 11 janvier, les habitants de la ville de Khabarovsk manifestent pour protester contre l'arrestation de Sergueï Fourgal, l'ex-gouverneur de la région. Membre du parti nationaliste LDPR, il avait battu en septembre dernier le candidat de Russie Unie, le parti au pouvoir qui soutient Vladimir Poutine. Et avec son arrestation, la population a le sentiment de s'être fait voler son élection. Fait plutôt rare, la mobilisation reste plus importante en province qu'à Moscou ou Saint-Pétersbourg. Une façon de protester contre le dirigisme du pouvoir central et la nomination par Vladimir Poutine d'un nouveau gouverneur issu lui aussi du parti nationaliste n'a pas calmé les choses. Au contraire, des manifestations de soutien au gouverneur déchu ont eu lieu dans d'autres régions du pays, en Sibérie, dans l'Oural, dans le sud et même à Moscou. Les manifestants dénoncent une reprise en main de la région par le pouvoir central et redoutent de voir la gestion de leur territoire dépendre de décisions technocratiques prises à Moscou et qui ne défendront pas forcément leurs intérêts. Charismatique et proche des gens, Sergueï Fourgal était apprécié de la population au point que certains souhaitent qu'il soit jugé à Khabarovsk et non à Moscou pour son implication dans des assassinats d'hommes d'affaires remontant aux années 2000. Selon l'ONG OVD Info, une soixantaine d'arrestations liées à ces manifestations ont eu lieu samedi dans tout le pays.
Jean-Didier Revoin. Si vous détestez la foule dans les musées, eh bien c'est le moment d'en profiter. Les musées font partie des victimes collatérales de la crise sanitaire. D'abord, ils ont dû fermer, puis rouvrir il y a 3 semaines avec des mesures sanitaires drastiques. Et surtout cet été, ils ne peuvent pas compter sur les visiteurs étrangers. Une perte considérable. Les touristes étrangers qui représentent notamment 70% de la clientèle habituelle du Louvre à Paris. Leur absence fait donc le malheur des gérants, mais aussi le bonheur des passionnés de culture. Ils profitent de visites privilégiées avec très peu de monde, Louis de Bergevin.
C'est un petit tableau qui à lui seul fait déplacer les foules d'habitude, mais qui a moins d'admirateurs en ce moment.
Généralement, il y a énormément d'attroupements autour de la Joconde et que là, c'est vraiment pas le cas.
Adrien en profite pour rester un peu plus longtemps devant le chef-d'œuvre. Il y a une belle file d'attente quand même, mais elle n'est pas très dense.
C'est cool même pouvoir s'arrêter devant les œuvres sans être entouré de beaucoup de monde, c'est sympa. Ouais.
Et les visiteurs aujourd'hui en profitent. Ils sont 10 000 par jour en moyenne au Louvre. Ils étaient plus du double l'an dernier à la même période. Pierre-Yves est venu montrer la Joconde à ses filles.
La directrice du musée d'Orsay nous a dit que c'était un excellent moment pour venir, donc effectivement ça nous a un peu incité. On va faire les musts du tourisme là, on les aura sans doute pas fait autrement, en tout cas pas l'été.
Ah, il y a aussi les habitués du musée, comme Christiane et Marie-Josée, elles seraient venues de toute façon, mais là c'est encore mieux.
On peut s'arrêter devant une œuvre et puis la déguster. Voilà.
Devant la Vénus de Milo, Michel a eu le temps de s'arrêter, de rêver, mais il rêve surtout que cette situation perdure.
Y a déjà pas mal de monde, moi, je trouve. Hein. Ça suffit, voilà, pas plus. Si on veut personne, on va voir les vases grecs. Il n'y a jamais personne. Les gens, ils comprennent pas bien pourquoi.
En attendant la fin de la crise sanitaire et le retour des touristes étrangers, les visiteurs du Louvre doivent réserver avant de venir et bien sûr garder leur masque devant les œuvres.
Le temps, cet après-midi, de belles éclaircies arrivent sur la moitié nord du pays. Le soleil s'impose aussi dans le sud. Quelques ondées possibles en début d'après-midi du nord du massif central vers le Jura. Les températures iront de 19 à 23 degrés au nord, de 24 à 30 ailleurs, jusqu'à 34 dans le sud-est, voire 37 du Gard au Var. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia et Anthony Thomasson à la technique.